Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, une crise, oui, mais une crise de régime. Il n'a pas prévu de parler dans l'immédiat. Le président de la République assume parfaitement ce qu'a déclaré le Premier ministre ce mardi, à savoir la suspension pour 6 mois de plusieurs mesures fiscales. Il ne s'exprimera pas à ce stade, indique l'Élysée ce mardi. C'est pourtant bien vers Emmanuel Macron que convergent tous les regards et l'essentiel des attentes. Samedi, certains manifestants avaient entrepris de marcher sur l'Élysée. Sur les murs, des tags appelant à la démission du chef de l'État. Lui seul semble en mesure de dénouer la crise. Cette attente correspond à la place de plus en plus prépondérante qu'a prise le président dans les institutions de la Ve République. Promu chef de la majorité par la réforme du quinquennat, il est en première ligne à la moindre crise. S'agissant d'Emmanuel Macron, beaucoup lui reprochent d'avoir exagéré le lien direct entre lui et le peuple, sans intermédiaire. Mais les institutions ne poussent-elles pas vers une telle pratique, au risque d'étouffer la vie démocratique? Dès lors, la crise en cours est-elle essentiellement politique, ou bien beaucoup plus structurelle car institutionnelle? Une crise, oui, mais une crise de régime. C'est la question que nous posons ce soir à deux invités. Anne Levade, bonsoir. Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Est Créteil, présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Vous avez été membre de la commission Balladur qui avait préparé la réforme constitutionnelle de 2008. Je ne sais pas si parmi vos adhérents vous comptez Dominique Rousseau.
Mais bien sûr, oui. Et avec plaisir.
Vous êtes à jour d'adhésion?
Toujours.
Bonsoir Dominique
Rousseau. Plus qu'adhérent, président du conseil scientifique.
Ah oui. Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez publié en 2015 « Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation ». Alors on va s'intéresser ce soir évidemment à cette crise des Gilets jaunes, mais à voir à ce qu'elle révèle ou pas d'une crise de régime. Je voudrais d'abord commencer la discussion avec les dégradations et les violences qui ont eu lieu samedi, et notamment des dégradations contre des symboles de la République. Il y a eu la préfecture au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Il y a eu des dégradations à l'Arc de Triomphe. Est-ce que vous y voyez, vous, l'un et l'autre, des dégradations de circonstances? C'est-à-dire, finalement, on casse ce qu'on a sous la main. Ou bien est-ce que ça traduit aussi une violence à l'égard des institutions, Anne Levade?
Alors, c'est toujours difficile de se prononcer. Moi, j'aurais tendance à faire une distinction entre peut-être ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'est passé ailleurs. J'ai le sentiment que la manière dont la manifestation avait été canalisée ou était censée être canalisée a favorisé le fait que l'Arc de Triomphe, qui était au bout finalement de cette zone sécurisée, soit la cible. Au même titre d'ailleurs que toutes les avenues qui partent ensuite de l'Arc de Triomphe. Et puis manifestement à Paris, il y avait une proportion de casseurs plus importante qu'ailleurs. En revanche, il me semble, pour ce que j'en ai vu à travers les médias, que ce qui s'est passé notamment au Puy-en-Velay, ce qui s'est passé aussi à Narbonne, sauf erreur, c'est quand même là une volonté d'attaquer les institutions représentatives de l'État, et donc effectivement la préfecture. Et donc je ferai une petite différence, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait moins de casseurs, et peut-être davantage une colère des Gilets jaunes, qui là, en Gilets les jaunes sont allés effectivement à ce qui leur semble être la racine du mal.
Et parmi les institutions, on pourrait d'ailleurs aussi rajouter les forces de police qui font partie de ces institutions. Dominique Rousseau.
Oui, absolument. Si vous parlez de symboles, et encore une fois, il faut bien distinguer entre ceux qui étaient venus pour casser et puis les gilets jaunes. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a des revendications des gilets jaunes et puis il y en a qui profitent de ces manifestations, comme toujours et partout, pour casser. Si on met ça de côté, il y a aussi symboliquement l'idée d'une cassure. Si certains cassent les symboles de la République, c'est peut-être parce que la République s'est détachée d'eux. Et se détachant d'eux, eh bien, pour eux, ces symboles de la République ne signifient plus rien. Donc si vous nous emmenez sur la question du symbole, casser les symboles de la République, aller jusque-là, l'Arc de Triomphe, les préfectures, etc., signifie que la République ne répond plus, n'est plus la chose publique que l'on respecte, puisque la République, dans ses politiques, ne nous respecte plus et met en place des politiques qui aggravent les inégalités sociales. Donc, sur le plan symbolique, ça veut, de mon point de vue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on y reviendra sans doute, mais la crise que l'on connaît, au-delà des problèmes des taxes, que je ne néglige pas, hein, c'est l'épuisement d'une forme représentative de la démocratie. C'est-à-dire toutes les institutions de la représentation. La forme représentative de la démocratie, c'est quoi? C'est ce que disait Sieyès. Le peuple ne peut vouloir, ne peut agir et ne peut parler que par ses représentants. On vit là-dessus depuis 1789. Et c'est ça aujourd'hui? Non. Le peuple dit, on veut parler nous-mêmes en dehors de la parole des représentants.
Alors on va aller justement dans cette discussion sur la profondeur de cette crise et de ce qu'elle révèle. Mais commençons peut-être par un des échelons et pas les des moindres de ces symboles de la démocratie, de cette représentation. C'est le président de la République. On voit bien qu'il est quand même l'objet de toutes les attentions, de toutes les attentes par rapport aux manifestants. Soit qui réclame sa démission, soit qui lui demande des prises de parole, de suspendre les réformes qui sont en cours. Est-ce que, en tout cas, ces revendications, ces attentes-là, elles témoignent d'une place exceptionnelle et peut-être exceptionnellement importante prise par le président de la République dans nos institutions, Anne Levade.
Alors oui, sûrement, et je dirais il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est qu'on sait que le président de la République, sous la Ve République, c'est une institution particulière. Deuxième niveau de réponse, Emmanuel Macron a joué très clairement, et j'allais dire à fond, cette carte-là, à la fois pendant sa campagne présidentielle, puisque certains voyaient même des accents gaulliens dans la manière dont il voulait être et incarner la figure présidentielle. Et puis, il a fait le choix, après un quinquennat normal assumé par François Hollande, d'être clairement celui qui allait, à la manière de l'homme providentiel, changer le monde, ou en tout cas rétablir un lien avec le peuple. Et puis, comme il s'est mis très en avant, d'autres l'avaient fait avant lui, hein, Nicolas Sarkozy était à certains égards dans la même ligne, comme il s'est mis très en avant et qu'il a beaucoup joué sur la carte personnelle, d'ailleurs il n'avait pas de parti traditionnel derrière lui au moment de la campagne, bah, évidemment il est le premier interlocuteur de ceux qui contestent la politique qui est menée aujourd'hui. Alors, il y a deux manières...
Mais pardonnez-moi, oui. La responsabilité de cette mise en avant, est-ce qu'elle revient exclusivement à Emmanuel Macron, ou bien est-ce que les institutions de la Ve, le fait, bien sûr, que depuis 62, on élit le président de la République au suffrage universel direct, il y a eu la réforme du quinquennat qui fait que le chef de l'État se retrouve à être le chef de la majorité parlementaire, est-ce que ça ne le conduit pas de toute manière, à un moment ou à un autre, à occuper cette position totalement en avant?
Alors, il est le chef de la majorité parlementaire, parce que la majorité parlementaire est la majorité présidentielle, et j'ai envie de vous répondre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction entre, effectivement, un régime, la Ve République, et le fait que Emmanuel Macron, président de cette Ve République, s'est présenté de manière assumée comme le premier des représentants et donc comme étant celui qui serait en première ligne, même s'il semble quand même que depuis trois samedis, si on prend les dates clés, malgré une intervention qui était une intervention, de mon point de vue, un peu décalée, un peu éthérée sur la transition écologique, il utilise, non pas vraiment comme fusible là d'ailleurs, oui, son Premier ministre comme étant la première ligne de réaction.
Alors, ce qui est inquiétant, c'est la manière dont ça se passe, parce que le fait que le président de la République soit pris comme cible n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Souvenez-vous, De Gaulle disant ça suffit, souvenez-vous des crachats lorsque Giscard d'Estaing quitte l'Élysée, souvenez-vous de François Mitterrand qui était le président le plus haï au moment de la réforme de l'école publique. Et bon, souvenez-vous de ça quand même, hein, c'était le président le plus haï. Souvenez-vous de Sarkozy ou du Hollande bashing. Autrement dit, les institutions, en mettant en avant le président de la République, font que, quelle que soit sa couleur politique, évidemment, ça converge vers lui.
Ce qui... Mais vous voyez quoi? Une forme de paratonnerre? Ou bien est-ce que ça pose pas, auquel cas, on pourrait voir une utilité? Ou bien est-ce que ça finit pas par poser problème, c'est-à-dire donner l'image d'une place absolument exorbitante qui est prise par une seule personne, qui semble la seule en mesure de régler les problèmes, ce qui renvoie peut-être un petit peu aussi au souvenir qu'on a de 1789, c'est-à-dire c'est le peuple qui attend tout son roi.
Enfin,
1788 plutôt.
Voilà, justement, c'est-à-dire qu'on est là dans une forme de représentation dont je parlais tout à l'heure. Une représentation fusion, c'est-à-dire que le général de Gaulle et tous les présidents essaient d'incarner d'incarner le peuple. Je suis le peuple. Mais c'est pas que Macron, que Hollande, que Sarkozy. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon dit la République c'est moi, c'est aussi débile que c'est aussi fusion, si vous voulez, que les autres. Et c'est justement ce que remettent en cause actuellement les gilets jaunes. C'est cette idée. Ils ne mettent pas tellement en cause. Enfin, on y reviendra peut-être, la question de la représentation. Ce qu'ils remettent en cause, c'est le fait qu'il y ait un monopole de la représentation et que les représentants estiment devoir dire le vrai et le juste à leur place. Ce qui me paraît plus... ce qui me fait la différence par rapport aux autres présidents qui ont toujours été pris pour cible, c'est une dimension, je dirais, que je ne trouvais pas dans les autres, c'est une dimension haineuse. Il y a une haine à l'égard d'Emmanuel Macron qui s'exprime. Et la haine, si vous regardez par exemple les propos haineux qui étaient tenus lors de la campagne présidentielle au Brésil contre Lula ou contre le Parti des travailleurs, la haine pourrait conduire, disons, à des débordements, alors qu'au départ, la contestation du président est logique puisque c'est lui qui incarne la question de la fusion, c'est lui qui incarne la politique.
Anne Levade.
Oui, alors moi je partage pour partie ce que vient de dire Dominique Rousseau. Je crois qu'il y a une vraie particularité française qui explique que d'ailleurs avec des institutions assez semblables dans d'autres États, je pense par exemple au Portugal, la figure présidentielle n'a pas du tout la même place, le même poids. Parce qu'il y a sans doute notre tropisme, notre culture politique qui fait que l'on a besoin, alors on l'adule autant qu'on le déteste, et ça c'est classique, d'avoir une figure présidentielle forte. Et bien sûr que c'est une des raisons pour lesquelles la Ve République fonctionne. Et que l'élection présidentielle demeure, même si le taux d'abstention a tendance à augmenter, malgré tout une des élections auxquelles les Français participent le plus largement. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment que cette dimension de haine, et je suis d'accord à l'égard d'Emmanuel Macron, est à la hauteur de l'espoir qu'il a fait naître. Et d'une certaine façon, j'ai aussi le sentiment que ce qui était son principal atout, son âge, il y a un an et demi, devient presque aujourd'hui l'un de ses principaux défauts. C'est-à-dire comme si l'on avait considéré que l'immense renouvellement lié à quelqu'un qui émergeait hors de tout parti politique, avec un mouvement qui en plus symboliquement s'appelait En Marche, même si c'était l'acronyme bien sûr de son nom, et qu'il n'ait même pas 40 ans, était finalement le signe que tout allait changer. Et puis qu'un an et demi plus tard, la déception, à tort ou à raison, parce qu'en même temps on attend beaucoup très vite, alors qu'on sait que le jeu démocratique et les institutions prennent leur temps, eh bien, soit à la mesure de cette espérance et qu'on se dise on n'a pas à avoir, à entendre de leçons, à se faire donner la leçon par un jeune président qui finalement n'est rien, etc. Et je trouve que finalement, c'est assez logique qu'on ait cette bascule. Elle m'inquiète de la même manière que Dominique Rousseau, mais je trouve que c'était peut-être prévisible et ça n'est pas tant un problème institutionnel que là, la conjonction entre institutions, culture politique et puis la personnalité sans doute du président,
oui, qui lui-même a changé. J'allais justement vous poser la question, et je vous la pose à tous les deux, Anne Levade et Dominique Rousseau, c'est-à-dire est-ce que vous considérez que finalement les institutions de la Ve République, malgré tout, dont on sait qu'on vient de fêter le 60e anniversaire, permettent d'absorber, ou vont permettre en tout cas d'absorber cette bascule et de maintenir un régime qui n'est pas un régime présidentiel, mais en tout cas où le président a une place prépondérante, ou bien est-ce que ça révèle au contraire l'épuisement d'un système aujourd'hui, ou bien vous ne voyez aucune corrélation en tout cas entre les deux?
Alors, je reviens juste sur Emmanuel Macron, président de la République. D'abord, moi j'observe qu'il a changé de comportement à un moment donné lui-même en tant que figure présidentielle. On a eu un président très vertical, on l'a beaucoup dit, ça a été beaucoup observé et commenté pendant une première séquence. Et c'est vrai qu'indiscutablement, depuis la fin du printemps 2018, il a changé, y compris avec des petites phrases qui ont été abondamment commenté, etc. Est-ce que ça explique qu'il y ait une évolution de l'opinion et notamment la montée des gilets jaunes? Peut-être, j'en sais rien, et il faut du recul aussi pour analyser ça. Deuxième élément, vous avez intitulé l'émission « Crise de régime ». Moi, je crois qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle « crise de régime ». Si on entend le régime 5e République, à titre personnel, je ne le crois pas. Tout simplement parce que je ne pense pas que passer à une 6e République résoudrait le problème auquel on est confronté. Et encore une fois, des à-coups, des grandes manifestations ou des grands mouvements qui conduisent les institutions à faire machine arrière, on l'a déjà vu, le CPE en 2005, ça avait même déclenché un état d'urgence partiel dans certaines zones du territoire. Jacques Chirac promulgue, un texte, quand même pas rien, et nous annonce que tout en le promulguant, il suspend l'application. C'est quand même ce qu'on pouvait faire de plus cocasse, pour utiliser un terme neutre et amusé, dans l'application d'un texte de loi. En revanche, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas la Ve République qui est en cause. C'est effectivement la représentation et le fait que, manifestement, les Gilets jaunes, qui n'arrivent même pas d'ailleurs à désigner en leur sein des représentants, ne font plus confiance dans ce modèle où quelqu'un parle en leur nom.
Dominique Rousseau.
Oui, alors, crise de régime, crise politique, je dirais qu'on a commencé par, classiquement, une crise sociale. Sans réponse, on a continué sur une crise politique et on est au bord d'une crise de régime, c'est-à-dire, comme vient de dire Anne Levade, crise de régime, pourquoi ? Parce que c'est pas la Ve République qui est en cause. À la limite, si c'était seulement ça, on changerait la Constitution et ça serait pas grave. Enfin, ça serait pas grave, ça serait une de plus. Ce qui me paraît constituer les prémices d'une crise de régime, c'est que précisément, ce qu'on met en cause aujourd'hui, c'est le principe de la représentation comme principe légitimant l'exercice du pouvoir. C'est ça qui est remis en cause. Et on cherche, alors évidemment, ça va un peu dans les idées que je défendais dans mon livre que vous avez cité il y a 3 ans. Ce qui est attendu, c'est que entre deux moments électoraux, c'est ce que j'appelais la démocratie continue, entre deux moments électoraux, on invente des mécanismes, des procédures, des institutions permettant aux citoyens d'intervenir dans le processus de fabrication des politiques publiques ou de fabrication des lois. Aujourd'hui, et c'est bien ça, c'est ce que disent les Gilets jaunes, on vote, et puis après, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent en notre nom. Et c'est là où ça me paraît une crise de régime, c'est-à-dire qu'on n'admet plus aujourd'hui que la forme représentative de gouvernement continue. Et on demande une autre forme de démocratie. On
mais
demande
ça, pas le mais la réponse, elle peut bien être institutionnelle, justement.
Alors, la réponse, absolument. Mais justement, il faut que les institutions reposent sur un autre principe que ce que j'appelle la représentation fusion. La représentation fusion, c'est lorsque on dit au peuple, ne parle pas, les représentants parlent en ton nom. Ce qu'il faut inventer, c'est une autre forme de représentation, ce que j'appelle la représentation écart, c'est-à-dire, il y a des représentants, pas de démocratie directe, il y a des représentants, mais les gouvernés, les citoyens, restent autonomes par rapport aux représentants et ont des lieux, des mécanismes, des moyens permettant entre deux moments électoraux de s'exprimer. Alors, lesquels ? Moi, je pense par exemple que, enfin, je vais être peut-être un peu dur, mais tant pis. Je pense que l'Assemblée nationale est une assemblée nécessaire, mais elle n'est plus aujourd'hui l'assemblée qui est connectée avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est les forces vives, c'est eux qui produisent, c'est eux qui font tourner la.
Donc il faut les dissoudre.
Il ne faut pas les dissoudre, les Gilets jaunes.
Non, je ne parle pas des Gilets jaunes, l'Assemblée nationale.
Non.
C'est-à-dire, si elle est déconnectée, ça veut dire quoi? Il faut la reconnecter
Je pense que l'Assemblée nationale ne peut pas être connectée avec les Gilets jaunes, parce que l'Assemblée nationale, si je prends les Gilets jaunes, plus exactement, si je prends les vieilles formules de Gaulle, c'est les forces vives de la nation, c'est-à-dire les mots, c'est eux qui font vivre le pays. Hein, aides-soignantes, infirmières, etc. C'est eux qui font vivre le pays. Et ils sont, comme disait Rosan Vallon, ils sont invisibles. Ils étaient jusqu'à présent invisibles parce qu'on parlait en leur nom. Il faut donc une assemblée qui les rende visibles. Vous savez, en 1789, finalement, ou 1788, Sieyès disait « Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout ? Qu'est-ce qu'il est ? Rien ? Qu'est-ce qu'il demande à devenir quelque chose ?» Eh bien, là, si vous voulez, les Gilets jaunes, ils sont tout dans le pays parce que c'est eux qui font le boulot. Ils sont rien dans les institutions. Et il faut donc qu'on invente un nouveau principe de légitimité et poser sur ce principe de légitimité une nouvelle institution tirée au sort avec des représentants. Et ça, c'est le problème des Gilets jaunes. Il va falloir qu'ils trouvent la manière de désigner des représentants, mais ça, c'est leur problème, pour qu'il y ait une assemblée qui représente ces citoyens qui sont inscrits dans la vie quotidienne.
Alors que pensez-vous de cette idée, Anne Levade, de constituer une assemblée supplémentaire? Alors je ne sais pas si ça se traduirait par, en parallèle, Dominique Rousseau, la suppression du Sénat, mais gardons le Sénat, gardons l'Assemblée nationale et créons cette autre assemblée qui permettrait de régler cette crise de la représentation dont vous faites le constat l'un et l'autre.
Alors, il y a un mot dans ce que vient de dire Dominique Rousseau que je pensais évoquer, donc j'y viens tout de suite. Le drame de la situation que nous vivons aujourd'hui, et je pèse le mot parce que je pense que la situation est vraiment grave sur un plan, encore une fois, démocratique. Je dis pas politique, institutionnel, etc. C'est sur un plan démocratique. Le drame, c'est que on assiste depuis plusieurs années, les choses sont progressives, à un effondrement, une disparition du principe de légitimité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que contestent aujourd'hui les Gilets jaunes, pour tenter qu'ils incarnent la majorité, mais si on en juge par le soutien de la majorité à travers les sondages d'opinion, c'est effectivement cette déliquescence de la légitimité. Et cette légitimité, je dirais qu'il y a une co-responsabilité dans cette déliquescence. Il y a ceux qui sont représentés, qui ne se sentent plus représentés et qui dénient à quiconque le droit de parler en leur nom. Et puis, je dirais que de manière symétrique, il y a depuis plusieurs années, de mon point de vue, un renoncement de la part des représentants à assumer l'incarnation de l'intérêt général. C'est-à-dire que les deux convergent, on peut dire que c'est la poule et l'œuf, je ne sais pas ce qui est la cause de quoi, mais on aboutit à la situation actuelle, me semble-t-il, avec ce double mouvement. Alors, on peut toujours, de manière théorique, imaginer la martingale qui va permettre de sortir de ce guépier. Moi, je ne crois pas, j'allais dire, c'est pas que je crois pas au CESE, c'est que je crois pas au CESE tel que le décrit Dominique Rousseau, un conseil économique, social et environnemental refondé qui sans doute changerait de nom et s'appellerait Chambre citoyenne.
Voilà, ça existe déjà, le CESE. Alors, ou le CESE, je sais pas comment.
Voilà, le Conseil économique, social et environnemental, il existe. C'était effectivement l'héritage gaullien en 58 pour en faire la représentation des forces vives de la nation. On le modifie en 2008 pour introduire la dimension environnementale. On pense à l'époque qu'il va faire quelque chose et tout le monde dit aujourd'hui qu'il fait toujours rien comme à l'époque. Et
donc, ce qui est sans doute très injuste d'ailleurs parce qu'il y a quand même aussi des rapports qui sont très intéressants pour peu qu'on prenne la peine de les regarder.
C'est évidemment pas mon sentiment, mais la question que ça pose, c'est une chambre citoyenne pour faire quoi ? Parce qu'il y a deux schémas. Soit effectivement, on a une chambre citoyenne, je reprends l'idée de la démocratie d'écart. Donc. Soit on a une chambre citoyenne qui vient en permanence dire « Ah ben oui, mais ce que font l'Assemblée et le Sénat, c'est un problème, ça va pas, ça sert à rien, il faut détricoter. » Et auquel cas, on n'arrivera plus à faire quoi que ce soit. Soit on a, je schématise beaucoup, une chambre citoyenne qui est là pour servir de caisse de résonance et de soupape de sécurité, c'est-à-dire on laisse s'exprimer le peuple, mais on continue à faire ailleurs comme on fait avant, et auquel cas, on ne va pas régler la difficulté. Donc, je n'ai pas la solution, je le confesse. Le problème, c'est d'arriver à renouer ce lien de légitimité sans lequel ne peut pas fonctionner une démocratie, sauf à avoir une démocratie directe permanente, qui, à mon avis, est évidemment impraticable. J'ajoute juste une petite chose, c'est que l'idée du tirage au sort, pourquoi pas ? C'est une idée qui a ses vertus. Mais en même temps, on voit par exemple dans les jurys populaires, en matière d'assises, de cours d'assises, que quand il y a tirage au sort, les gens n'y vont pas. Donc, moi je me méfie toujours de ces formules, donc je ne sais pas quelle est la faisabilité concrète.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Est-ce que nous vivons aujourd'hui une crise de régime ? C'est la discussion entre Anne Levade et Dominique Rousseau avec ce débat sur cette idée d'une assemblée citoyenne qui pourrait prendre quelle forme et dotée aussi peut-être de quel pouvoir. Alors, Anne Levade parlait de démocratie directe. Est-ce que la démocratie représentative, selon vous, est suffisamment essoufflée, Dominique Rousseau, pour qu'il faille aussi, à travers peut-être cette assemblée citoyenne, penser une façon de mettre en place une démocratie directe qui pourrait répondre justement aux attentes des...
Alors, je ne suis pas partisan de la démocratie directe parce que je pense qu'une démocratie a besoin d'institutions. Une démocratie a besoin d'institutions, pourquoi ? Parce que sort de la société une énergie, d'idées, de propositions, etc. Bon. Et je dirais, c'est une comparaison, je crois que c'est Bergson qui faisait cette comparaison, si vous avez la fontaine, quand l'eau jaillit de la fontaine, à un moment donné, l'eau jaillit et retombe. Bon, pour éviter que l'eau jaillissant d'une fontaine retombe, il faut quelque chose qui la fasse tenir. Et donc, l'énergie sociale qui est à l'œuvre avec les Gilets jaunes, il faut qu'il y ait une institution qui empêche cette énergie de retomber. Mais en même temps, comme dirait le président, si on crée une institution, on risque de geler cette énergie sociale. Il faut donc trouver des institutions vivantes, des institutions qui restent ouvertes sur la société. Et c'est pour ça que je pense à cette assemblée citoyenne, appelons-la comme on veut, mais c'est-à-dire à côté de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale représente quoi ? Elle représente pas, excusez-moi, c'est du droit, elle ne représente pas les citoyens, elle représente la nation. Un député n'est pas élu de la circonscription, il est élu dans sa circonscription. Il a un mandat représentatif, il représente la nation. Vous connaissez l'anecdote, quand Jean-Jacques Servan-Schreiber a été élu député à Nancy, il a tout de suite fait des cartes de visite en disant « Jean-Jacques Servan-Schreiber, député de Nancy ». Et il a reçu une lettre du président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, je ne vais pas imiter sa voix ici, mais Edgar Faure lui disant « Mon cher collègue, vous allez me refaire votre carte parce que vous n'êtes pas député de Nancy, vous n'êtes pas député de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, vous n'êtes pas député de Lorraine, vous êtes député de la France. »
Oui, mais ça vous savez bien, Dominique Rousseau, que ce sont les principes et que dans la pratique, la plupart des députés...
Mais justement, c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que l'Assemblée...
Bah pourquoi le président pourrait avoir une relation directe avec les citoyens et pas les députés ?
Parce que l'Assemblée a pour fonction de représenter la nation. Le Sénat a pour fonction de représenter les collectivités territoriales. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Qu'est-ce qui manque ? Il manque aujourd'hui une Assemblée qui représente les citoyens concrets, visibles, les gilets jaunes, ceux qui sont dans leur profession. Il n'y a pas d'Assemblée pour les représenter. Et évidemment, les politiques s'élaborent sans eux. Et il faut donc une institution... Alors appelons-la comme on veut. Et après, on peut discuter de son mode de composition. Et moi, je considère que même le Conseil économique et social aujourd'hui, si j'avais, je pourrais dire aux gilets jaunes, bon, plutôt que d'aller dans les rues samedi, envahissez le Conseil économique et social, mettez-vous dans la grande salle et puis délibérez sur le projet alternatif. Et là, on verra. On verra précisément que contrairement à ce qu'on entend à droite et à gauche. Les gilets jaunes ne se mobilisent pas sur des émotions. Les propos que vous entendez, alors il y en a évidemment, mais comme partout, mais les propositions qu'ils tiennent, les arguments qu'ils développent, montrent qu'il y a, dans le peuple, quand il se constitue, il y a de la rationalité. Les arguments qu'ils donnent, à partir de leur vécu, et lorsqu'ils dépassent les émotions, ils arrivent à faire des propositions parfaitement cohérentes. Alors, qui apparaissent irrationnelles dans notre forme représentative, mais qui sont parfaitement rationnelles dans la forme que j'imagine de démocratie continue.
Anne Levade, puisque vous faites l'un et l'autre le constat d'une crise de la représentation, est-ce qu'il serait quand même pas beaucoup plus efficace de se dire, pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique Rousseau, de modifier le lien qui peut exister justement entre les députés et les citoyens en resserrant ce lien et en donnant pouvoir aux citoyens, le cas échéant, de dessaisir les députés de leur mandat. Ça fait partie, hein, par exemple, des revendications qu'on peut lire justement sur les plateformes des Gilets jaunes. Il y a notamment ceci, hein, cette phrase qui me semble assez intéressante. Alors, c'est au bas d'une demande de référendum d'initiative populaire. Et on lit ceci, « Députés, faites entendre notre voix à l'Assemblée, obéissez à la volonté du peuple, faites appliquer ces directives. »
Alors, c'est à la fois une question très classique, celle que vous posez, et l'illustration tangible de ce qui est en péril, c'est le régime représentatif. Parce que le mandat représentatif, la théorie du mandat représentatif, c'est pas le lieu de faire un cours de droit constitutionnel, mais justement interdit ce qu'on appelle le mandat impératif, c'est-à-dire le fait de devoir, à chaque fois que l'on vote, vérifier que l'on est bien en conformité avec la volonté individuelle de chacun de ses électeurs. Alors pour une raison simple,
on pourrait imaginer que comme la comparaison va peut-être vous sembler un petit peu stupide, mais c'est la première qui me vient, c'est-à-dire de la même manière qu'on fait un contrôle technique régulièrement, il pourrait y avoir un contrôle technique du député à certaines échéances, c'est-à-dire pendant son mandat.
Mais alors le problème à ce moment-là, raccourcissons la durée du mandat. Parce que en réalité, le contrôle technique, il existe au terme du mandat. C'est très exactement ça. L'autre difficulté, alors il faut quand même avoir les idées claires là-dessus, c'est que je pense que cette idée-là, elle est illustrative d'un état d'esprit qui me ramène à la proposition faite par Dominique Rousseau. Moi, je suis convaincue que la réponse à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas une réponse institutionnelle. Parce que je pense que si l'on rajoute une institution, on va créer J'ai de plus grand respect pour les institutions, et en particulier celle de la cinquième. Mais on va créer une rigidité supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'une institution, elle doit, j'insiste, servir à quelque chose. C'est-à-dire apporter une solution. Or, l'un des problèmes que l'on voit aujourd'hui surgir dans la situation des Gilets jaunes, c'est quand on dénie la représentation, on dénie aussi le principe majoritaire. Parce que par définition, ce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui individuellement, c'est-à-dire nous ne pouvons pas être représentés puisque ceux qui nous représentent ne sont pas nous. Alors ils ne sont pas nous collectivement, mais ils ne sont pas non plus nous individuellement, parce qu'on voit bien qu'il y a les gilets jaunes modérés, les gilets jaunes moins modérés, ceux qui menacent, ceux qui ont été désignés comme porte-parole, parce que comme ils ne disent pas ce que chacun dit individuellement, ils ne peuvent pas porter la parole, etc. En réalité, la canalisation, et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Dominique Rousseau, la canalisation de cette énergie qu'il y a, heureusement, dans une société, c'est pas le rôle des institutions. Les institutions, elles sont là pour produire une décision et une politique. La canalisation de cette énergie politique, c'est le rôle des corps intermédiaires. Et les gilets jaunes sont ici l'illustration, me semble-t-il, du discrédit total, et c'est ça, pour moi, un des problèmes majeurs, des partis politiques, qui d'ailleurs peinent à exister dans le débat actuel, et on voit bien que non seulement les propositions qu'ils font ne correspondent pas aux problèmes qui se posent, mais surtout les gilets jaunes les renvoient dans leur but, et aussi le problème des syndicats. Et peut-être que l'erreur d'Emmanuel Macron a été de penser, à un moment donné au début de son mandat, qu'il pouvait se passer de ces corps intermédiaires. Et que En Marche, c'était un renouveau de la vie politique qui démontrait par A plus B que les vieux partis étaient à bout de souffle, que les syndicats, ça ne servait à rien et que tout ça était des empêcheurs de tourner en rond. Alors que c'est eux, la fontaine, qui permet de canaliser la source.
Mais si Emmanuel Macron a été en mesure de penser ça et de le faire dans la pratique, c'est bien aussi parce que on est dans un régime institutionnel qui permet justement de penser qu'il peut y avoir un lien absolument direct sans les corps intermédiaires, Dominique Rousseau.
Non, mais je crois que, évidemment, il y a une théorie politique, il y a une théorie constitutionnelle du lien direct entre le chef de l'État et le peuple. C'est ce qu'on a, c'est Carl Schmitt, c'est le populisme. Le lien direct. Or, c'est pas ce que demandent justement les gilets jaunes. Ils demandent pas le populisme. C'est pas un mouvement populiste. C'est un mouvement populaire pour une autre forme de démocratie. Bon, et une autre forme de démocratie qui précisément met à côté ou évite autant que possible le fait qu'une seule personne incarne le mouvement. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui cette difficulté des gilets jaunes à se structurer. Je pense qu'ils y arriveront. Enfin, c'est un mouvement. Si on raisonne, ce sont des gens comme vous et moi. Ce sont des gens qui deviennent citoyens. Comment passe-t-on de gens à citoyens? Ce sont des gens qui, dans l'espace privé, chez eux, le soir avec des copains, disaient quand même c'est la galère, etc. On n'y arrive pas. Mais ils disaient ça entre eux. Ça, c'était des gens. Et puis, ça passe dans l'espace public. Et là, c'est plus des gens, c'est des citoyens. C'est-à-dire qu'ils raisonnent. Ils ne se contentent plus de dire « ouais, c'est pas bien, on n'en arrive pas ». Ils raisonnent. Comment on fait ? Ils deviennent citoyens. C'est Simone de Beauvoir. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient comment ? Lorsque précisément ce qu'on vit dans l'espace privé va dans l'espace public et qu'on se confronte aux autres pour essayer de trouver à partir des problèmes quotidiens des politiques publiques nouvelles, des lois nouvelles. Donc ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est non pas à l'expression d'un peuple, c'est à la constitution d'un peuple parce qu'ils mettent en commun ce qu'ils vivent dans l'espace privé. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'il y a de la rationalité. C'est pour ça qu'il y a de la rationalité, parce que le débat se pose en public et qu'il y a des confrontations. Et ce que je souhaite, parce qu'évidemment je suis juriste, c'est que cette confrontation nécessaire, cette délibération entre les gilets jaunes pour construire un projet alternatif, et c'est là, je dis, il faut à un moment donné un espace, il faut un lieu. Et c'est pour ça que je dis, aussi bancal soit-il, le Conseil économique et social aujourd'hui offre au moins une grande salle, un grand hall, pour qu'ils puissent se réunir et délibérer de leur projet alternatif.
Est-ce qu'en attendant que le CESE soit éventuellement réformé en assemblée citoyenne, en tout cas beaucoup plus représentative qu'elle ne l'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui, puisque vous êtes l'un et l'autre constitutionnaliste, des outils dans la Constitution qui peuvent permettre d'apporter une réponse dans l'urgence à cette crise qui est une crise importante? Je pense à deux articles en particulier, l'article 11, référendum, l'article 12, la dissolution, le pouvoir de dissolution. Anne Levade.
Alors moi, mon intime conviction est que si aujourd'hui on recourait à l'un ou à l'autre, on ajouterait à la crise plutôt qu'on ne la résoudrait.
Pourquoi ça ?
Parce que je pense que là, on crée une situation alors dans le cas de la dissolution, de discontinuité institutionnelle, parce que par définition, ça veut dire qu'il faut réorganiser des élections derrière. Moi, je n'ai pas exactement le même regard que celui que porte Dominique Rousseau sur les gilets jaunes. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que on dit les gilets jaunes, mais je pense qu'il y a une infinité de petits groupes de gilets jaunes à l'intérieur de cette grosse masse qu'on appelle les gilets jaunes, et que donc du coup, ils n'aspirent pas à exercer le pouvoir. Me semble-t-il. Ce qu'ils veulent, c'est vivre mieux, ce qui est parfaitement légitime comme demande, et c'est ce qu'on voit, et effectivement, ils essaient de trouver des solutions.
Des législatives leur permettraient peut-être justement de désigner de nouveaux représentants, voire un nouveau président de la République.
Je ne sais pas s'ils iraient voter, en réalité.
Là, si vous voulez, la dissolution et le référendum, vous restez dans les instruments classiques de la démocratie représentative. Or, c'est précisément...
Oui, mais mettent en cause.
On les utilise tellement peu que peut-être
On les a utilisés. Mais si vous voulez, on reste avec ces instruments dans la forme représentative de la démocratie, alors que ils demandent pas l'élection d'une nouvelle assemblée.
Non.
Ils demandent justement qu'il y ait des institutions où ils puissent être eux pour délibérer et participer à la délibération des politiques publiques. Mais vous savez, ce que je dis apparaît peut-être un peu utopique, ça l'est peut-être, mais j'invite vos auditeurs à relire La République moderne de Mendès France, qui a été publiée en 1962 et qui est d'une actualité absolument remarquable, y compris sur la question de l'Assemblée citoyenne, Mendès France. Donc, je crois, si vous voulez, que aujourd'hui la dissolution... Moi, je viens dissoudre l'Assemblée nationale, mais...
Vous n'en avez pas les pouvoirs, je vous le rappelle.
Non, j'en ai pas, bien entendu. Mais vous avez vu ce que ça a donné en 68. C'est-à-dire une Assemblée ultra-conservatrice. Donc, si vous voulez, attention au maniement des instruments. En plus, je pense pas qu'on remettrait en place une Assemblée nationale, alors que je crois que ce qu'ils cherchent, c'est une mise en place d'institutions, d'une nouvelle forme de démocratie.
Bon, donc pas de dissolution, et le référendum, c'est aussi une façon de faire vivre la démocratie entre les périodes d'élection, Anne Levade.
Alors, on rejoint la question, un référendum sur quoi ? C'est-à-dire, on va pas faire un référendum sur est-ce que vous voulez ou non la hausse du prix du carburant ? Est-ce que vous voulez ou non la hausse du prix du contrôle technique ?
Il y avait un invité hier, qui est un des membres des Gilets jaunes, qui disait, alors, nous, on veut absolument avoir la possibilité d'organiser des référendums d'initiative populaire et sur le thème suivant qui serait l'annulation de la dette. Qu'en pense la constitutionnaliste
C'est une idée comme une autre. C'est-à-dire, on va demander l'annulation de la dette. Très bien.
Et une fois que le peuple. À partir d'un référendum d'initiative populaire qui n'est pas prévu, on est d'accord pour la constitution aujourd'hui.
Il l'est, mais d'une manière si alambiquée qu'il ne l'est pas. Mais on est bien d'accord. Mais une fois que le peuple a dit nous voulons l'annulation de la dette, il y a un problème de faisabilité, me semble-t-il, de l'annulation de la dette, y compris à l'échelle internationale. Et donc, là, on retombe sur le même problème. Est-ce qu'on veut gagner plus ? Oui. Est-ce qu'on veut moins d'impôts ? Oui. Est-ce qu'on veut être heureux ? Oui. Est-ce qu'on veut plus de soleil et moins de pluie ? Oui. Plus de dettes ? On est d'accord. Mais la question d'un référendum, c'est aussi de la faisabilité de ce que l'on donne. Et il faudrait en tout cas qu'il y ait un texte derrière, avec le cas échéant un accord qui valide cela. Et on n'est pas prêt.
Donc vous dites oui, essayons de régler la crise de la représentation, mais sans donner trop de pouvoir quand même du coup au peuple.
Mais c'est ce que je vous dis par l'Assemblée citoyenne. L'Assemblée citoyenne.
Je suis d'accord pour dire que les vieux instruments d'association du peuple à la décision. D'ailleurs, il n'y a que les partis politiques aujourd'hui qui proposent soit dissolution, soit référendum. Et les partis d'opposition qui, par ailleurs, n'existent pas. La preuve, les Gilets jaunes sont en train de les court-circuiter.
Et en plus, le référendum, ceux qui proposent le référendum oublient qu'ils peuvent le faire, puisque désormais, il y a le référendum d'initiative partagée. Et donc, les parlementaires pourraient aujourd'hui prendre l'initiative d'un référendum à faire ensuite valider par les citoyens. Mais, contrairement à ce que vous laissez entendre, précisément, c'est en allant vers cette assemblée citoyenne, en tous les cas de mon point de vue, à partir du moment où le mouvement dit des choses sur l'épuisement de la forme représentative de la démocratie, c'est pas en utilisant les instruments de la forme représentative que vous avez réglé le problème, mais en inventant les institutions de la démocratie continue, n'est-ce pas ?
Eh ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Dominique Rousseau et Anne Levade, la crise des Gilets jaunes et toutes les réflexions, les analyses qu'on essaie de tirer, c'est bien sûr toute cette semaine dans Du Gras à Moudre, mais c'est également dans les matins de France Culture, dans les journaux de la rédaction et dans la partie idée de La Grande Table. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Ledoux, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Trucot et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Payeret Legras avec à la prise de son Amine El-Mansari.